France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Hi, darling. I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Y aller voir, je veux bien, mais parfois on ne peut pas. Prenez par exemple le plus célèbre des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, les très riches heures du duc de Berry. Il est plus facile de rencontrer le pape ou le président des États-Unis que de toucher les très riches heures, remarque Christopher de Hamel. Mais aujourd'hui, jusqu'au 5 octobre, vous pouvez vous rendre au château de Chantilly, paraît que c'est le monument préféré des Français, et plus précisément au musée Condé, pour non pas les toucher, ça je vous le conseille pas, mais les voir, entourés d'autres livres, d'autres œuvres, qui témoignent, avec éclat, de ce que fut, autour de 1400, la mise en beauté du pouvoir d'un grand prince. Mais au temps où la peinture était dans les livres, son accès ne pouvait être que réservé et recueilli. Lorsque le duc d'Aumale achète le manuscrit en 1856, sa célébrité est encore confidentielle. Ce n'est qu'au XXe siècle que les très riches heures, reproduites dans des livres, mais aussi sur des timbres, des boîtes de chocolat, deviennent l'image même du Moyen-Âge. Ces miniatures ont été une de mes voies d'accès vers le Moyen-Âge, avouait Umberto Eco. Et il n'est pas le seul. Alors, nous aussi, empruntons cette autoroute onirique qui mène droit non seulement à un monde d'images, mais au foisonnement de nos imaginaires. Allons y voir, en compagnie d'Inès Villela-Petit et Étienne Anheim, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Sophie Crasse. Allons voir ce livre qui est, comme Georges Duby le disait dans Le Temps des cathédrales en 1978, bien plus qu'un livre.
Ce livre, cet objet de piété, c'est une œuvre d'art, ou plutôt un rassemblement d'œuvres d'art, puisque vers 1415, différents peintres, serviteurs du prince, ses domestiques, nourris de ses dons, furent chargés de décorer ce livre à tour de rôle, page après page. Donc, une galerie de peinture, ce qu'est pour nous un musée, mais ici, renfermé, secret, la possession jalouse du mécène, l'équivalent de ce que furent plus tard, de ce que sont aujourd'hui, les collections des amateurs. À l'entrée de ce livre, comme à l'entrée de la cathédrale, un calendrier.
Bonjour Étienne Anheim.
Bonjour.
Vous êtes historien médiéviste, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste de la sociologie historique des productions culturelles à la fin du Moyen-Âge, musique polyphonique, peinture italienne notamment. Vous avez commencé à étudier tout cela en compagnie du pape Clément VI au travail, c'est le titre de l'édition de votre thèse, publiée en 2014. Et puis travail, je crois que c'est quand même le mot-clé de votre œuvre d'historien. Un historien travaille sur ce qui le travaille, écrivez-vous dans le travail de l'histoire en 2018. Et de ce travail, vous faites une histoire à la fois intellectuelle. Votre dernier livre, publié cette année aux éditions de Minuit avec Paul Pasquali, s'appelle Bourdieu et Panofsky, propose, à partir de l'étude de leur correspondance inédite, une archéologie intellectuelle de l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire matérielle des œuvres d'art envisagées comme des bricolages. C'est pas mal vu, hein, quand même, Duby, enfin, comme souvent, le livre, comme une cathédrale, on y rentre par le calendrier.
Effectivement, un livre cathédrale, hein, on peut dire, un livre monument. On y a repéré 28 mains, trois moments différents de décoration dans les miniatures. Donc en fait, c'est un peu
comme une cathédrale, c'est
comme un chantier. C'est-à-dire ouais. Que ce livre est le résultat d'un vaste chantier collectif. C'est peut-être la première chose à avoir en tête, parce que quand on voit un livre, quand on voit un manuscrit, on peut se dire bon ben ça a été l'œuvre d'une personne ou à la limite d'un petit groupe. Et là, souvent, on l'attribue à ses frères de Limbourg, dont on reparlera certainement, ces peintres du début du XVe siècle. Mais en réalité, derrière, en fait, c'est trois dizaines de gens qui ont travaillé pour produire cette œuvre.
Inès Villela-Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conservateur du patrimoine, spécialiste de l'enluminure médiévale au temps de ce qu'on appelle le gothique international. Vous aussi, vous vous intéressez à la fois matériellement et socialement, avec les ateliers, à ses œuvres en 2020. D'ailleurs, vous avez publié aux éditions de la BNF l'atelier de Christine de Pizan. Et dans vos dernières publications, vous étudiez les échanges entre la peinture des frères de Limbourg et les autres arts, situant dans le manuscrit et en dehors, pour reprendre le titre d'un livre auquel vous avez contribué. Puis vous avez aussi contribué au superbe catalogue publié par In Fine sous la direction de Mathieu Deldic, et aussi d'ailleurs en compagnie de Patricia Stiernmann, un guide qui a été publié en anglais, en allemand, pas encore en français.
Voilà.
Il y a une émotion, parce qu'on dit histoire matérielle, histoire intellectuelle, mais c'est aussi une histoire sentimentale. Je pense que quand on, comme vous, on travaille sur les manuscrits, c'est qu'on les aime, c'est qu'on les aime vraiment.
Oui, oui, c'est une histoire sensible. Et on entre dans un monde, en fait, avec eux. C'est une porte d'entrée, en fait, sur tout un imaginaire qui est encore le nôtre à travers ces œuvres qui nous en restent. Les Très Riches Heures étant particulièrement riche et mystérieuse aussi.
Oui.
Et le fruit, en fait, de collaborations diverses entre artistes, à mon sens, avec le duc lui-même.
Alors, on va en parler, évidemment, le commanditaire, il est très présent, mais commençons par décrire. Alors, peut-être pas une image, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il fait 206 folios. C'est pas un livre très grand, Étienne Anaïm. Déjà, c'est peut-être ce qui va surprendre celles et ceux qui l'ont rêvé avant de le voir vraiment au Musée Condé de Chantilly. C'est pas très grand.
Alors, c'est pas très grand, ça correspond aujourd'hui, en fait, simplement au format classique 21-29-7.
Ouais,
c'est-à-dire, il fait 210 mm sur 290 et il a la taille d'une page A4. Alors, c'est vrai que c'est surprenant. Aussi parce qu'on a tellement vu ces images, elles ont été tellement imprimées dans des manuels d'histoire du secondaire en tout petit, dans des affiches de cinéma en très grand, que on s'y perd et on n'a plus la dimension réelle à l'esprit. Et moi, j'ai vu ce manuscrit comme tout le monde, hein, pour la première fois là, de façon extraordinaire. Et on constate qu'il est d'une dimension modeste, mais qu'en revanche, il est d'un détail absolument exceptionnel. Et c'est un manuscrit qui est un livre d'heures.
C'est pour ça qu'il n'est pas très grand.
C'est un livre de prière.
C'est pas un livre d'apparat, c'est un livre qui a un usage.
Ça n'est pas un livre d'apparat, ça n'est pas non plus de ces grands livres qu'on ouvre sur les lutrins des cathédrales pour chanter. C'est un livre d'usage personnel. Et alors, à l'usage personnel d'un prince exceptionnel. Et dans ce livre, il y a les prières d'un livre d'heures, donc des heures de chrétiennes de la journée qui permettent de sanctifier sa journée en priant régulièrement. Et puis, il y a toute une série d'images extraordinaires. Et parmi ces images extraordinaires, les plus extraordinaires de toutes sont celles qui accompagnent le calendrier.
Voilà, ça on va en parler. C'est le début du livre et un livre qu'il est important effectivement de ramener à son usage dévotionnel pour un prince, Jean de Berry, on peut un peu le présenter, Inès Villela-Petit, il est partout dans le livre, il est représenté, et d'ailleurs il est très ressemblant, parce qu'on le voit avec sa tête caractéristique, et puis on peut le comparer dans l'exposition avec le gisant, c'est aussi un festin héraldique, et puis vous allez nous montrer qu'il est aussi à des endroits où on ne le soupçonnait pas.
Le duc ouvre le livre, en fait. La première page, la première pleine page, est son portrait.
Janvier.
Janvier.
Il y a un serviteur qui dit « approche, approche ».
Et alors moi, je pense que c'est lui-même
qui dit ça.
Approche, oui, qui s'adresse à un cardinal qu'il reçoit à dîner, en fait, à une table de banquet pour le premier de l'an, puisque le 1er janvier était une grande fête. On ne fêtait pas tant la Noël ou l'Épiphanie que le 1er de l'an, en fait. Et c'est l'illustration traditionnelle pour le calendrier. C'est une représentation de banquet, mais on va peut-être y revenir.
Oui, là, il y a tout le luxe, en fait, de la table princière avec les objets.
Les mets, les serviteurs, les chiens aussi, y compris sur la table. Et ce portrait du duc est particulier parce que il est dans un livre de prière et pourtant, c'est un portrait profane. Il n'y a pas de représentation dans son livre du duc en prière comme il y en a dans ses autres livres d'heures. C'est un livre de prière, mais en fait, c'est un livre aussi, à mon sens, est-ce vraiment un livre d'heure ou un livre d'art, ou peut-être plutôt, et je pense le terme qui s'applique le mieux aux très riches heures, c'est un mémorial,
oui,
à mon sens. Le duc avait une collection de livres d'heure, certains qu'il avait fait faire.
Qui sont voilà, visibles dans l'exposition.
Certains qu'il avait fait faire, d'autres dont il avait hérité. Et en fait, dans les livres princiers, il y a toujours les heures dans lesquelles, ou le livre dans lesquels Monseigneur dit ses heures. Et ce n'est pas les très riches heures, oui, ou ce n'est pas les volumes les plus grands ou les plus précieux. Ce sont des petits livres plus maniables, en fait.
Alors Mathieu Deldic, qui est conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée Condé, est le commissaire de cette exposition. Il y a travaillé très très longtemps et voyez ce qu'il en dit.
Bienvenue au château de Chantilly, dans la salle du Jeu de Paume, pour une exposition événement, exceptionnelle. C'est l'exposition des très riches heures du duc de Berry, et le plus célèbre du monde, et peut-être aussi l'un des moins visibles. Sa restauration nous permet de montrer de façon déreliée les 12 miniatures du calendrier. Cette exposition est l'aboutissement d'années de préparation et d'années aussi de restauration. À vrai dire, ce manuscrit des très riches heures était fragilisé. Les marges étaient salies, les premiers cahiers se détachaient et surtout, certaines miniatures présentaient des craquelures dans leur peinture qui menaçaient de tomber. Et donc, après des années d'analyse, de comités, d'examens préalables, nous avons procédé avec l'atelier Coralie Barbe à la restauration de ce manuscrit. Une opportunité qui nous a permis de préparer cette exposition et de présenter de manière inédite tous ces feuillets déreliés.
C'est une histoire institutionnelle, Étienne Anaïm. C'est-à-dire que tous ces musées qui se portent au chevet d'un manuscrit qui lui-même est rentré dans les collections nationales tardivement, tout cela, on peut en faire une histoire sociale et politique.
Oui, je trouve qu'une des choses les plus frappantes dans cette entreprise menée autour de Mathieu Deldic et de Chantilly, c'est l'expression du travail accompli en France par les institutions qui dépendent du ministère de la Culture. C'est-à-dire, si on regarde le sommaire du livre, il y a un ou deux universitaires, et moi je suis un ardent défenseur de l'université, mais on est surtout frappé de la capacité des gens qui travaillent pour le ministère de la Culture dans les archives, dans les bibliothèques, dans les musées, dans les laboratoires, puisqu'il y a le centre de restauration, le centre de recherche et de restauration des musées de France, qui
il y a le musée du Louvre,
il y a le musée du Louvre, il y a la BnF, et au fond, cette exposition, ce livre, cette recherche a été presque entièrement accomplie par les forces de recherche, de conservation du ministère de la Culture. Je crois que c'est important de le dire parce que aujourd'hui, ministère de la Culture est quand même souvent sous le feu des critiques. Il est souvent attaqué, y compris de l'intérieur. Et il me semble que c'est une démonstration et une réponse extraordinaire de montrer que toutes ces institutions peuvent travailler ensemble et peuvent allier une mission de service public de la culture à une recherche de très haut niveau.
Et puis, il y a l'histoire de la restauration, Inès Villela Petit, des pigments, tout ça, évidemment, est très documenté aussi dans le livre, comme on fait maintenant.
La restauration du livre, comme souvent les restaurations de tableaux anciens, sont toujours une façon d'entrer plus profondément dans les techniques de sa réalisation et dans les matériaux qui sont mis en œuvre. Ça a été l'occasion de faire quelque chose qui était très attendu, qui était des réflectographies des pages. La réflectographie est un système en fait de photographie qui permet de voir sous les couches picturales le dessin sous-jacent. Et c'est particulièrement important dans les très riches heures parce que plusieurs mains s'y sont succédées. Et donc on se demande toujours, au vu des dernières réalisations peintes, des dernières pages peintes par Jean Colombe, en fait, quelques 70 ans après le début du manuscrit, si ce sont purement ses inventions ou s'il repose sur des dessins antérieurs, des dessins des frères de Limbourg.
Alors justement, on va commencer à regarder des images. Je vous en fais voir un, je vous en fais passer un. C'est pas l'original, même s'il a été dérelié. Qu'est-ce que vous voyez? C'est le octobre, c'est le mois d'octobre dans le calendrier, Étienne Anaïm.
Alors le mois d'octobre dans le calendrier, c'est une des images les plus belles et les plus frappantes de mon point de vue parce que déjà elle est d'une composition entièrement symétrique, c'est-à-dire que l'image qui est en dessous du demi-cercle avec le zodiaque et le calendrier est elle-même partagée en deux. On a deux rectangles.
En haut, on a le bleu du ciel avec le zodiaque.
En haut, on a le bleu du ciel. Et puis ensuite, le rectangle supérieur, il représente un mur de fortification et derrière un palais. Et ce palais, c'est le palais du Louvre. Palais du Louvre, qui est complètement neuf à cette époque. Hein. On est au début du XVe siècle et il a
vu de la rive gauche, c'est ça ?
Depuis quelques dizaines d'années. Vu de la rive gauche, effectivement, c'est-à-dire qu'on a le bras de la Seine, et puis on est dans les champs. Et le rectangle inférieur, c'est les champs qui sont aujourd'hui entre le musée d'Orsay et le pont des Arts, mais enfin, il faut se rappeler que toute cette zone est à l'époque une zone de la campagne qui environne immédiatement. C'est la banlieue de Paris. On est un peu au-delà de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait quelques résidences, dont la résidence du duc de Berry. Donc, en fait, le point de vue est celui du duc de Berry. Mais on est dans les champs et on a un paysan sur son cheval qui est en train de labourer en passant une herse. Un autre qui est en train de semer.
Un épouvantail.
Un épouvantail. Et donc, une image à la composition extraordinaire qui documente des choses très très différentes. C'est-à-dire que dans la même image, en fait, on peut voir et commenter des aspects du Moyen-Âge extrêmement différents.
C'est-à-dire à la fois une histoire matérielle et aussi une histoire symbolique, Inès Villela-Petit, parce qu'évidemment, l'architecture est partout. C'est-à-dire que derrière, il y a des châteaux, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce sont ceux de Jean de Berry, ceux qu'il a conquis, ceux où il est né. Et c'est très important aussi, cette présence de l'architecture.
Et la présence de l'architecture était absolument exceptionnelle dans un livre d'heures, qui est quand même un livre de prière. Et une partie des châteaux, effectivement, représente des châteaux du duc de Berry. Sont des portraits de châteaux, en fait, avec une représentation assez topographique, en fait, et qui représente, en fait, ses possessions, ses apanages, donc son territoire. Mais il y a aussi, comme le Louvre, comme le château de Vincennes, quelques châteaux royaux qui sont représentés, le palais de la Cité, effectivement, et qui donne un point de vue, le point de vue du duc, et le point de vue du duc à une époque où le roi étant dans l'incapacité d'exercer son pouvoir puisqu'il est atteint de crises de folie, en fait...
C'est le frère de Charles V, on ne l'a pas encore dit.
Alors, le duc de Berry est à la fois fils, frère et oncle de roi. Il est très fier de ce titre. Et là, en fait, il est avec son neveu, en fait, le roi, et il essaye de tenir en fait le pouvoir royal dans une situation où il est en train d'entrer en pleine guerre civile.
Alors évidemment, l'historien Étienne Anheim, il voit tout ça, il regarde à la fois les détails, les semailles, l'architecture, il reconstitue le contexte, mais il y a aussi la question des mains, et Inès Villela-Petit disait tout à l'heure, bah voilà, il y a deux campagnes de peinture là qui se donnent à voir, et là elle s'étage aussi, hein, c'est ça.
Tout à fait. Une des raisons pour lesquelles cette image du mois d'octobre est si intéressante, hein, au-delà de cette démonstration de puissance, de cette illustration du Louvre, c'est la plus ancienne image du Louvre qu'on a. En fait, c'est les élévations de ce qu'on peut aujourd'hui voir dans le musée du Louvre, dans les soubassements, le Louvre de Charles V et de Charles VI. Mais au-delà de ça, on voit beaucoup d'autres choses. Alors, par exemple, on voit dans cette image le fait que il y a eu deux moments de peinture et deux moments éloignés de 30 ans. Puis il y aura un troisième moment encore plus tardif, hein, dans les années 1480. Les frères de Limbourg peignent l'essentiel de ce manuscrit en 1416, autour de 1416. Ils en dessinent une part, il y a un dessin sous-jacent qu'on arrive à repérer, c'est ce qu'on disait grâce à l'ultraviolet, mais ils ne finissent pas le manuscrit.
Tout le monde meurt en 1416.
Ils finissent très peu, tout le monde meurt en 1416.
Jean de Berry.
Les trois frères de Limbourg et Jean de Berry meurent en quelques mois. Donc ce manuscrit reste inachevé, il reste en plan pendant 30 ans. Et après ces 30 ans, va venir un autre mécène, un autre grand bibliophile qui est René d'Anjou, un autre grand peintre qui est Barthélemy Deck, et ce manuscrit est complété. Mais il est complété par une autre main et par d'autres techniques. Et un historien d'art italien, Luciano Bellosi, a pu montrer que les costumes des personnages qui se promènent au bord de la Seine,
mais ceux-là, ils sont
dans cette image,
ils sont sauts 1440. Ils sont
exactement.
C'est pas du tout la même
ils
mode.
Ils sont habillés, mais c'est un peu comme si aujourd'hui vous mettiez côte à côte des gens habillés dans les années 1970 et dans les années 2010. Donc on voit bien que les gens qui sont au bord de la Seine sont habillés avec des vêtements des années 1440. Ça n'a pu être peint que plus tard.
Puis il y a les ombres aussi.
Et les ombres portées, oui. Barthélemy Deck est de la famille de Jean Van Eyck. Et Jean Van Eyck a développé, en fait, et ses suiveurs, de nouvelles techniques de peinture, une nouvelle approche réaliste. Et Barthélemy Dyck, donc, qui est peut-être un de ses neveux, est un grand spécialiste des ombres portées. Et c'est aussi à ça qu'on reconnaît la modernité de son approche par rapport à la première campagne du livre.
Alors, on est en octobre et we feel in love in October. Girl in Red 2018, oui, avec Etienne Anheim et Inès Villela-Petit, nous regardons le plus beau des manuscrits médiévaux, les très rigeurs du duc de Berry. Et vous nous disiez l'un et l'autre que, évidemment, qu'on est à ce moment-là, qui est le gothique international, ce moment incroyable quand même de mise en scène d'une puissance princière qui fait, je dirais, feu de tout bois avec les arts. Et ça, vous avez travaillé là-dessus, Inès Villela-Petit, c'est le rapport entre les frères de Limbourg et les autres arts, l'orfèvrerie, ce qui est donné à voir à l'exposition du musée de Condé.
Une expérience des frères de Limbourg qui fait aussi l'exceptionnelle richesse de leur art, c'est celle de la vie de cour, d'une part, et celle aussi de la pratique d'autres arts, puisqu'on sait que deux d'entre eux avaient été formés à l'orfèvrerie. En fait, c'était le début de leur formation, qu'ils avaient dû interrompre pour cause d'une épidémie à Paris. Mais ce sont aussi des courtisans, en fait, auprès du prince. Et la vie de cour est particulièrement riche en rivalité et aussi en propositions, en collection.
Oui, des compétitions féroces.
Parce que des compositions.
Normalement, c'est pas eux les favoris.
Alors, en fait, le duc de Berry est assez libéral et il a plusieurs favoris simultanément.
Oui.
Ce qui lui permet, en fait, de mettre en concurrence, alors parfois en collaboration et d'autres fois en concurrence et en rivalité, mais qui, en fait, crée une émulation parmi ses artistes. Et il a plusieurs peintres préférés, plusieurs peintres en titre simultanément. L'un étant Jacquemart de Hesdin, qui est contemporain, un peu plus âgé, mais contemporain des Limbourg, et un autre, en fait, à la fin de sa vie, qu'on connaît sous le nom de Michelet Saumon, et qui est aussi, de fait, un rival des Limbourg, mais ils s'observent les uns les autres, bien évidemment, et ils rivalisent de créativité pour plaire au prince.
Donc il y a un dialogue avec la sculpture, avec l'orfèvrerie, avec la peinture aussi, enfin la peinture de tableaux, parce qu'ils ont peut-être fait des tableaux aussi, c'est une hypothèse.
On le pense, en tout cas, pour Paul de Limbourg, qui est le cadet, mais qui est le plus brillant, apparemment, et le préféré du duc, qui l'a beaucoup favorisé, et qui, lui, n'a pas eu de formation d'orfèvre et dont on est en droit de penser qu'il s'est formé auprès de son oncle, qui était un grand peintre du duc de Bourgogne, peintre en titre, qui était Jean Malouel, Et il a pu se former sur le chantier de la Chartreuse de Champmol et se former comme peintre.
Et oui, parce que le gothique international, c'est aussi la circulation des modèles et une unification au fond d'une culture princière, pas seulement française, mais européenne, avec Avignon, évidemment, Milan, Prague aussi. Et ça, c'est intéressant pour vous, Étienne Anheim, qui êtes l'historien de ces circulations. Tenez, j'arrache une autre page au manuscrit. Celle-là, les anges oui, déchus.
La chute des anges rebelles, hein, qui se trouve au folio 64 verso du manuscrit et qui est effectivement une très belle illustration de ce gothique international qui est une culture visuelle, qui est un style, mais qui est aussi une production sociale liée à un exercice du métier, une circulation entre les différents types de métiers artistiques, et puis un exercice de la commande qui définit une nouvelle élite européenne. C'est-à-dire qu'en fait, le gothique international, c'est le style des grandes cours d'Europe de l'Ouest à partir de la fin du XIVe et jusqu'au milieu du XVe siècle. Et de ce point de vue, cette chute des anges rebelles, elle est magnifique parce que c'est une réinterprétation par les frères de Limbourg d'une autre œuvre qui est aussi une chute des anges rebelles, aujourd'hui conservée au Louvre, et qu'on attribue à l'atelier des frères Memmi et de Simone Martini, donc des très grands peintres siennois qui travaillent à la cour des papes d'Avignon dans les années 1340. Ce petit panneau de la chute des anges déchus, il montre le ciel, les archanges, l'assemblée des anges et les anges déchus précipités dans le vide. Dans sa version des années 1340, il a un fond d'or classiquement siennois, oui, je dirais. Et alors, ce qu'il y a de très beau dans l'image qui correspond à cette image, et on voit que les frères de Limbourg ont vu ce panneau qui a été produit à Avignon et qui a été conservé en France, c'est qu'on a une sorte de variation qui n'est plus sur fond d'or, mais qui est cette fois-ci sur ce bleu extraordinaire des très riches heures, qui est le bleu du lapis lazuli, c'est-à-dire cette pierre précieuse qui sert à faire le
cher.
Bleu incroyablement cher, plus cher que la
plus
poudre d'or. Et qui sert à faire le bleu de la plus grande qualité. Donc vous avez dans une même image à la fois le témoignage d'une culture visuelle, une image théologique extrêmement forte, et puis une manifestation de richesse et de souveraineté, parce que rien que la poudre de lapis lazuli qui a servi à faire le pigment pour peindre cette page valait davantage que le salaire annuel d'un artisan.
Ce qui tombe du ciel, c'est aussi parfois les cartes postales de Mathieu Pott-Bonneville, directeur du département culture et création de Beaubourg. Et vous allez voir que ça parle aussi de ces thèmes-là.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, vous souvenez-vous de Raskar Kapak? Ah, je devine à votre mince tressaillement qu'en effet, vous vous souvenez. Planche 32, dans l'édition Casterman de la 13e aventure de Tintin. La partie supérieure d'un visage se découpe entre les battants à croisillons largement ouverts, tache d'encre de ses orbites sur le rectangle obscur d'une nuit sans étoiles, effrayante d'être encore indécise. Glaçante, comme peut l'être davantage même qu'un visage par la fenêtre, l'hypothèse de ce visage. Bientôt, cette hypothèse enjambera la traverse pour dresser haut la sphère qu'elle tient. La momie se tiendra toute côte saillante dans votre chambre, elle fera face à votre lit. La ligne claire de Hergé ne laissera plus rien ignorer des détails anguleux de cette face aux yeux vides, sa mâchoire régulière, ses tempes creuses cerclées d'or, avant que, la boule de cristal lancée au sol, la case se trouve zébrée d'une onomatopée « zing », vous vous rappelez? La boule de cristal trace un grand « zing » lorsqu'elle se brise. Étrange chemin que celui de cette silhouette à travers nos enfances. Car si nous ne compulsons plus guère de livres d'heures pour dire nos prières à matine ou à l'aude, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir eu petit cette fréquentation fervente d'albums ouvert entre vêpres et complis, album dont les textes et les images mêlées venaient ajuster l'un à l'autre le soir et le sommeil, à condition qu'une stricte répétition en règle l'usage, proscrivant d'en omettre aucune page, aucune bulle, aucun détail. Il fallait non pas lire, mais relire les 7 boules de cristal. Et voilà que, en cet album-ci, Un prince étranger et mort depuis longtemps venait du rituel inverser chaque signe. Le sommeil tout d'abord. Puisque dans cette histoire relue pour s'endormir, la catalepsie qui saisit de solides savants à barbe et à lorgnon ne promettait nul apaisement. Dès lors, entre parcourir une à une les images et glisser dans le sommeil, la relation devenait de stricte alternative. Pour dormir, il fallait ne pas voir la momie. Pour ma part, j'avais obtenu de mes parents qu'ils confectionnent un cache, fermement assujetti par de l'adhésif, volet obturant la fenêtre dont la découpe ajustée aux cinq cases maudites permettait d'interrompre le récit au sommeil de Tintin, strip 3, case 1, et de le reprendre à son réveil en sursaut. « Mon Dieu, quel bonheur, j'ai rêvé, c'est le vent qui a ouvert brusquement la fenêtre. » Ce cache doit encore être serré quelque part entre les pages. Et je soupçonne, Patrick, que chez vos auditrices et auditeurs, bien des armoires recèlent des bricolages du même genre. Il fallait donc, chaque soir à la même heure et si l'on voulait dormir, éviter de voir. Mais aussi bien, l'occultation redoublant l'inquiétude, je ne voyais que cela. Cette feuille blanche découpée en biseau sous laquelle, échappant à ma surveillance, Raskar Kapak se tenait encore. Comme si, sous la répétition qui rassure, parce qu'elle rythme les heures, elle donne figure au monde, elle noue à la carte du ciel un texte su par cœur, comme si sous cette répétition bourdonnait un autre genre de retour, perpétuellement conjuré et renaissant, exaspéré par le désir de voir la menace, la tentation peut-être de s'endormir à jamais. Infigurable hantise sur fond noir d'une momie qui, dans ses cases, est comme une concrétion de la nuit elle-même. Compulsion. Dans l'allemand de Sigmund Freud, cela se dit « zwang ». Zwang, zing. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose. On peut dire ce qu'on veut de Hergé, Patrick. Peu auront comme lui su faire place, dans la liturgie de l'enfance, aux pages redoutées de l'Office des morts.
France Culture, allons y voir.
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard gelé.
Patrick Boucheron.
Il y aurait bien des manière en somme de rebondir sur la carte postale de Mathieu Pottebonneville, le rapport avec la bande dessinée, avec la narrativité. Mais j'ai envie de vous interroger, Inès Villela-Petit, sur l'Office des morts. Parce que, au fond, on l'oublie, mais tout ça, c'est la dernière année de la vie de Jean de Berry, et il le sait. Et il voit la mort arriver, et vous, dans un article récent, vous avez tenté de saisir cette mort en face à partir de plusieurs images du calendrier, je crois que c'est janvier, mars et décembre.
Oui, il y a un premier aspect, celui que les gens remarquent, qui est séduisant, riant. Et en fait, il y a un aspect, si on rentre un peu plus profondément, un aspect plus sombre. Le livre d'or en lui-même a pour un de ses principaux textes, en fait, un office des morts, où le dévot de l'époque s'habituait à prier pour les défunts, mais aussi pour lui-même et en anticipant sa propre mort. Et le duc a 76 ans, il est malade, il est là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les très riches heures sont aussi exceptionnelles par toutes les allusions dans ces enluminures qu'elle comporte à la mort annoncée, la mort prochaine du duc.
Par exemple, vous voulez quoi ? Janvier, mars, décembre ?
On peut commencer par janvier.
Allez, janvier, voilà.
On peut commencer par janvier avec un contexte festif qui est au milieu d'une guerre, en fait, d'une guerre entre factions, Armagnacs et Bourguignons. Il y a une allusion dans la tenture à l'arrière-plan de la pièce qui montre des scènes guerrières. C'est une image profane que cette illustration de janvier avec un portrait du duc. Un portrait qui ne cache pas ses rides et un portrait qui en fait le place dans cette scène de banquet à la place de l'illustration traditionnelle des calendriers qui est la représentation du dieu Janus, dieu romain qui ouvre l'année et qui est représenté à une table
Jean
de banquet.
Jean Janus, il y a évidemment un jeu de mots.
Jean Janus, il y a un jeu de mots.
Avec son propre prénom.
Absolument. Et d'où la raison de ce portrait profane, mais ça fait aussi de lui, parce que Janus est un dieu à double visage, qui voit le passé et qui voit l'avenir. Le duc de Berry n'a pas deux visages, il regarde vers le passé. Et le passé, on peut passer justement à la page de décembre.
Oui, la page de décembre, regardez, je la fais voir d'abord à un historien qui va faire le Candide. Décembre, on voit un alali, une chasse.
L'alali du sanglier, c'est la mise à mort au terme de la chasse.
Alors nous, ce qu'on a appris, Étienne Anam, quand on était étudiant, parce qu'on lisait Françoise Autran, c'est que ce sanglier, ben, c'était la mise en pièces de Henri V, c'est-à-dire des prétentions du roi d'Angleterre sur la France. C'est ça que vous voyez, vous?
Alors, c'est ça qu'on peut voir. On peut voir beaucoup de choses dans la symbolique médiévale des animaux et dans l'héraldique, hein, parce qu'il y a un codage de toutes ces images. On peut voir aussi une scène de chasse sur la chasse du début du XVe siècle. Mais vous avez raison, Patrick, de dire que on est dans un contexte très particulier qui est un contexte de guerre civile en France, oui, à cette époque, et de guerre civile aggravée par une guerre extérieure. Puisque 1416, c'est un moment où le roi d'Angleterre et ses troupes sont en France. On est un an après la bataille d'Azincourt. C'est-à-dire que Henri V, le roi d'Angleterre, prétend à la couronne de France. Et c'est la reprise de la guerre de Cent Ans. C'est-à-dire que c'est la deuxième partie de ce grand affrontement entre les dynasties françaises et anglaises, qui au départ est une guerre féodale et qui va devenir une sorte de guerre nationale.
Voilà, ça c'est l'historien qui parle. Mais je vous rends votre image, Inès Villers-Lapierre. Petit, vous voyez autre chose. Vous dites, bah, ce sanglier, c'est peut-être Jean de Berry lui-même qui est en train de crever.
Il y a une raison pour ça, mais l'essence ne s'exclut pas, et c'est cela qui est intéressant. Dans l'image médiévale, c'est qu'il y a un feuilleté de sens. Il y a plusieurs lectures possibles. Pourquoi je dis que le sanglier, ce vieux sanglier, en fait, qui est mis à mort, cerné par des chiens, en fait, dans cette forêt, peut représenter Jean de Berry lui-même. Si on regarde bien l'arrière-plan, l'arrière-plan qui est des Limbourgs, on voit les tours du château de Vincennes. Château de Vincennes est un... Voilà, c'est un château royal, ça n'est pas une de ses possessions, mais c'est là qu'il était né, un 30 novembre. Et cette relation entre une scène de mise à mort, en fait, au premier plan, et le château où il est né à l'arrière-plan, est pleine de sens. Elle fait allusion aussi, comme d'autres indices en fait semés dans le livre, à une mort prochaine, en fait, la mort du prince, qui en fait a cette préscience de ce qui va advenir.
Pascal Quignard a écrit dans Les Heures Heureuses, 12e tome de son dernier royaume, son émotion enfantine devant le petit volume cartonné, carré, en gros carton, ivoire, bosselé, léger, fascinant, tout sec, des très riches heures du duc de Berry, que conservait sa grand-mère au bas de l'armoire réservée aux enfants à sa hauteur. Donc la fragilité et la minutie de ces miniatures étaient si précieuses, si dénudées, si médusantes, que même enfant, je les touchais avec précaution. Écoutons-le parler des heures de la rotation féconde ou fertile du temps. Il y a dans tout roman un récit, quelque chose qui est quelqu'un qui est mort ou qui a
le temps d'après.
Qui est le temps d'après. Et ce temps d'après revient sur ce qui s'est passé et donne une ligne, une direction. Même chose pour l'histoire. Ce que je cherche un peu dans le dernier royaume, c'est une confusion désorientée, si vous voulez, très désorientée par rapport à ce temps linéaire, et qui fasse comme le tour du temps de la nature qui va en rond, qui va de saison en saison, qui ne cesse d'aller d'heure en heure et de saison en saison, de façon quasi immortelle, parce que, comment dire, on n'est pas sûr de grand-chose dans nos vies, mais on est sûr du printemps suivant, on est sûr de l'hiver, hélas, aussi suivant, de l'automne qui vient, on est sûr de tout ça, de façon, et c'est... En s'approfondissant, ce tour du temps est quelque chose qui devient, pour ceux qui ont la chance de vieillir, quelque chose de plus en plus merveilleux. Je cherche que chaque chapitre soit le plus différent possible dans son attaque que celui du précédent. Et ça me force à une espèce de nouveauté, de renouvellement qui suscite quelque chose de l'ordre. De ce qui tombe de l'expérience, de ce qui tombe du haut du ciel, de ce qui tombe de la douleur.
Ce qui tombe de la douleur, ben, on y revient, Inès Villers-Lapetit, à ce tour du temps. Peut-être que la clé, c'est Mars. On n'en a pas parlé, mais c'est le moment d'en parler.
Au mois de mars, on voit à l'arrière-plan le château de Lusignan, en Poitou, qui est aussi une possession de Jean de Berry, puisqu'il est comte de Poitou. Et il se passe quelque chose de très étrange. À l'une des tours du château, au-dessus, apparaît un dragon. C'est pourtant une scène réaliste avec un paysan à sa charrue au premier plan. Et ce dragon, en fait, c'est la fée Mélusine. C'est la fée Mélusine sous son apparence reptilienne. Et il y a une légende, en fait, autour de Lusignan et de la famille de Lusignan, dont Jean de Berry est en quelque sorte l'héritier, qui est que, 3 jours avant la mort, en fait, du possesseur de Lusignan, la fée Mélusine apparaît pour annoncer sa mort, en fait. Et il se trouve que sur cette image de Mars, la fée est apparue.
C'est ça qui est beau, Étienne Anheim, dans le métier de médiéviste, c'est qu'il doit dire, le médiéviste ou la médiéviste, ça a eu lieu, donc on est en 1400, on est en 1415, on est en 1440, mais ça vient jusqu'à nous par toutes ces médiations dont parle si bien Pascal Quignard, ça vient avec des livres imprimés, et donc ce qui est à voir déjà dans ce texte, c'est le temps d'après. Et on le voit aussi inévitablement quand on va regarder les très riches heures du duc de Berry. On voit aussi comment elles arrivent jusqu'à nous.
Oui, on peut dire que les très riches heures, en fait, c'est un livre à contre-temps. C'est-à-dire que c'est un livre qui vient vers nous en même temps qu'on va vers lui, puisque on connaît le Moyen-Âge visuellement, entre autres à travers ce livre. C'est-à-dire que beaucoup des illustrations, alors on a parlé de bande dessinée, mais on pourrait parler de l'iconographie en général, hein, du Moyen-Âge, de la fin du 19e et de tout le 20e siècle,
les Lagardes et Bichard, par exemple,
les Lagardes et Bichard,
sont nourris par ces dessins. Alors, ce qui est formidable, c'est que ces dessins, ces peintures, le dessin sous-jacent, la peinture qui les a recouvertes, sont non pas une photographie de la réalité, mais déjà un imaginaire du début du 15e siècle. Et cet imaginaire va produire un autre imaginaire. Donc, vous voyez, c'est comme une sorte de galerie de glace, c'est-à-dire qu'on se perd dans cette contemplation d'un Moyen-Âge rêvé, qui était déjà rêvé pour Jean de Berry, et qu'il est encore plus pour nous, et qui renvoie à une pratique sociale qui est la pratique de la collection. Si Jean de Berry a ce manuscrit, il faut quand même le dire, c'est que lui-même est un extraordinaire collectionneur. C'est peut-être le premier collectionneur de l'histoire de l'Europe, de la fin du Moyen-Âge. Et quand je dis collectionneur, je veux dire quelqu'un qui a rassemblé des objets avec pour fin de créer des séries, pas simplement des trésors d'église, pas simplement le trésor du pape dans lequel il y avait des livres de l'orfèvrerie et des objets précieux, mais une véritable collection qui fait sens dans son ensemble.
Et quand il meurt, bah justement, le titre « Les très riches heures » se trouve dans son testament. Le livre a le destin d'un objet de luxe dans une collection. Et si on le voit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un autre collectionneur, qui est le duc d'Aumale.
Effectivement, en miroir, et c'est comme le miroir du temps, s'il y a aujourd'hui ce livre dans les collections de Chantilly, c'est parce qu'au XIXe siècle, le duc d'Aumale, qui est un des fils de Louis-Philippe, hein, Henri d'Orléans, a été lui aussi un immense collectionneur, et de ces collectionneurs qui ont porté un intérêt particulier au Moyen-Âge, comme ça a été beaucoup le cas au XIXe siècle. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, en fait, tel qu'on le connaît, c'est largement une invention, une réinvention du XIXe siècle. Et le duc d'Aumale a été un des grands protagonistes de cette histoire, et il a rassemblé une collection extraordinaire sur le Moyen-Âge et la Renaissance, qui se trouve aujourd'hui dans son château, le château de Chantilly, grâce à une fortune. Alors, le duc d'Aumale est un personnage qui a eu une vie en elle-même romanesque, d'abord parce que grâce à une affaire de quasi détournement d'héritage, il a récupéré la fortune des Condé. C'est-à-dire que c'est un des hommes les plus riches de France et d'Europe au XIXe siècle, et c'est grâce à ça qu'il peut collectionner. Et puis c'est aussi une figure politique. Alors c'est aussi quelqu'un qui a participé à l'aventure coloniale de la France. Il a été gouverneur général de l'Algérie dans les années 1840, au moment où l'armée française a achevé ce qui était une première pacification, c'est-à-dire une première série d'exactions militaires en Algérie. Et le duc d'Aumale, c'est aussi cette histoire-là. Mais c'est un grand collectionneur de la France de la fin du XIXe siècle.
Et dans son testament, il est spécifié qu'aucune de ses pièces ne devra quitter Chantilly. C'est pour ça que si vous voulez aller voir les très riches heures, il faut y aller.
Parce qu'un imper en cuir noir, c'est bien pratique par temps de pluie. Parce que tes amis m'intriguent quand vient la nuit. Parce que sous ton maquillage se cache un regard électrique. Amour diabolique. T'aurais pas dû me cacher que t'étais gothique. Car moi tu sais, je suis un mec plutôt classique. Mais non, non, non. J'ai pas un dino. J'ai pas un dino. Thank you. que d'un brunch au Père Lachaise, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'avec toi, on passe pas inaperçu. Parce que face au diable, tu ne te montres pas laconique. Amour satanique. T'aurais pas dû me cacher que t'étais gothique. Car moi, tu sais, je suis un mec plutôt classique. Mais non, non, non. J'ai pas un dit non. J'ai pas un dit non.
Amour gothique par Le Noiseur 2015. Vous nous cachez rien, Sophie Crasse. Quand vous venez ici, c'est pour nous parler de sexualité. Et là, vous allez, ce qui est quand même pas simple, hein, y a un petit chemin pour y aller, parler des Très Rigeurs du Duc de Berry comme un livre érotique.
Il y a un petit chemin, mais ouais. Je vous propose de le parcourir avec moi. Et pour commencer cette route, on peut regarder ensemble un livre d'artiste qui a été édité par la Galerie Chave en 1972. Il s'intitule « Mes très riches heures ». Et c'est l'artiste d'origine croate Slavko Kopač qui en a signé le texte et les illustrations.
Il n'est pas très connu, hein ?
Non, c'est un nom qui vous est peut-être inconnu en effet. Kopač est resté sa vie durant dans l'ombre de Jean Dubuffet, dont il était un très proche collaborateur. De fait, Kopač, à côté de ses activités de peintre et de sculpteur, proche des cercles surréalistes, a consacré sa vie à l'art brut. Il faisait office de conservateur pour la collection de l'art brut que Dubuffet avait fondée à Paris à partir de 1948.
Oui, alors moi je veux bien emprunter tous les chemins qu'on veut, mais enfin quand même de l'art brut, c'est-à-dire finalement un plaidoyer pour un art libéré du poids de la culture et l'enluminure médiévale, il y a un truc qui m'échappe.
C'est vrai. Alors Kopač expliquait que l'art du Moyen-Âge était une voie pour lutter contre un certain académisme en peinture au XXe siècle, parce que selon lui, c'était un art collectif, un art habité par la religion, la spiritualité et même une certaine magie du vivant. Alors de fait, plusieurs indices nous montrent que l'hommage que Kopač a rendu au manuscrit du Duc de Berry a été en fait soigneusement pensé. Jusque dans les questions du format, qui est identique, jusque dans les questions aussi de reliure et d'emboîtement. Le livre de Kopač se présente en effet sous la forme de feuillets de papier arche lithographié, non reliés. On a vu combien c'était une question aussi pour les très riches heures à l'origine. Des feuillets rangés dans un étui rigide qui lui-même est rangé à l'intérieur d'une pochette en toile épaisse. Et la couleur de cette pochette, eh bien, c'est le bleu profond outre-mer qui nous évoque immanquablement le bleu, le lapis lazuli qu'on a évoqué des très riches heures. Le bleu choisi aussi par le duc d'Aumale dans les années 1860 pour tapisser l'intérieur de la boîte précieuse qu'il avait faite réaliser.
Et à l'intérieur.
Pour le manuscrit des très riches heures.
Vous nous faites languir à l'intérieur du livre, Sophie Crasse.
À l'intérieur du livre, la piété solitaire est de mise, mais elle est au service de la chair exaltée. Les illustrations, les enluminures, les bordures ornementales abondent de fleurs et de femmes nues, tout en jambes et en bouche, des silhouettes arrondies, quasi abstraites, servies par un dessin presque enfantin. Mes très riches heures, c'est bien un livre de prières, mais des prières d'un genre un peu particulier. Ces quatre sections, invocation, grâce, litanie et lamentation, sont autant de poèmes tout entiers dédiés à la passion, au désir, parfois à la haine, que lui inspirent les femmes à qui ces prières sont adressées. Alors ce qui m'interroge, moi, c'est comment un manuscrit de piété médiévale en est venu, dans ces milieux proches du surréalisme d'après-guerre, à incarner l'érotisme et la passion charnelle.
Alors il y a un film qui gravite aussi, je dirais, aux marges du surréalisme, c'est Les Visiteurs du Soir, évidemment, de Marcel Carné et Jacques Prévert. Il y a un rôle là-dedans?
Je pense qu'il a joué un rôle. Ce film, sorti en 1942, sous l'occupation, c'était directement inspiré, on le sait, du manuscrit des Frères de Limbourg, qui était au sommet de sa popularité. Et ce film inventait vraiment un Moyen-Âge inédit, dans un château aux murs blancs, flambant neuf, avec ses successions d'arches et ses ombres franches qui lui donnent un faux air de tableau de Quirico. Un Moyen-Âge surréaliste, en somme,
baigné de passions amoureuses et de magie.
À quoi songez-vous, Anne ?
Rien, mon ami.
À qui songez-vous, alors ?
Vous ai-je déjà donné l'occasion d'être jaloux ?
Fort heureusement, non. Je voulais simplement vous rappeler que bientôt vous m'appartiendrez tout entière. Vous m'entendez ?
Je vous entends, Renaud.
Tous vos plaisirs, tous vos désirs, toutes vos peines, si vous en avez, c'est à moi que vous les devrez.
Aurais-je au moins le droit de rêver ?
Le moins possible, Anne, je vous en serai gré. Les rêves sont choses nuisibles et inutiles. Moi, je ne rêve jamais.
C'est le moment où Arletty... Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle rêve ?
Alors, Arletty, elle joue une envoyée du diable, personnage androgyne, séductrice. Et c'est le moment où elle va précisément faire basculer Anne et Roland dans le rêve. Toute la charge érotique de ce personnage d'Arletty se concentre sur ses jambes, filmées en gros plan, tantôt découvertes par son costume masculin, tantôt recouvertes par sa robe de femme, au gré de son changement magique d'identité sexuelle. Or, ce geste de découvrement, recouvrement des jambes, eh bien, il vient tout droit du manuscrit du XVe siècle. Dans le calendrier des très riches heures, si l'on regarde la célèbre image du mois de février, on voit une paysanne relevant sa robe et son jupon, tandis qu'à côté d'elle, un homme et une femme retroussent leurs vêtements jusqu'à dévoiler entièrement leur intimité et leur sexe masculin et féminin bien visible. Cette incroyable liberté vis-à-vis des convenances n'a pas échappé à la réception du manuscrit dans les cercles du surréalisme et de l'art brut, des artistes qui donc ont investi de leur propre vision de la liberté sexuelle et des rapports du genre le manuscrit médiéval.
Merci Sophie Crass. Oui, c'est bien effectivement Inès Villers-Lapetit. Oui, un rêve de Moyen-Âge qui nous fait rêver à notre tour. Et vous avez évidemment étudié le décor, vous avez étudié les feuilles d'acanthe, vous avez étudié cet imaginaire, la fée Mélusine, vous avez étudié aussi les réalités, la forme des ruches, je ne sais pas quoi. Mais c'est tout en même temps, d'une certaine manière, qui doit être saisi, c'est rêve et réalité du Moyen-Âge.
C'est une richesse qui est intarissable.
Oui.
Et effectivement, on est frappé quand on voit le manuscrit en vrai, qui est autant, en fait, autant de minutie, autant de détails, autant de mystères dans une surface qui reste modeste. Et il y a plusieurs ententes, un peu comme l'interprétation biblique qui voit plusieurs niveaux de lecture et plusieurs niveaux d'interprétation du texte. Là, on a plusieurs niveaux d'interprétation des images et de leurs détails.
Et puis Umberto Eco disait aussi qu'il y avait plusieurs manières, il disait qu'il y en avait 10 manières de rêver le Moyen-Âge. Et écoutez-le, lui aussi a été évidemment... non seulement intéressé, mais appelé par les très riches heures. Écoutez-les parler, c'était sur Arte en 2013, ben, évidemment, du nom de la rose.
Monstrante scriptura quia, in multiloquio non effugetur peccatum.
Mon premier roman ne pouvait être que un polar. C'est pas par hasard que j'ai situé toute l'histoire dans un monastère, parce que dans la tradition anglo-saxonne, the murder is in a vicarage. C'est dans un vicariat, dans une église, pour dire que c'est essentiel pour un bon polar qu'il se passe dans un milieu ecclésiastique. C'est évident, parce que c'est plus. Le soupçon sont plus intéressants. Je suis parti d'une image poignante. C'était l'image d'un moine qui lisait sur un lutrin un livre, à un certain point, tombé empoisonné. Cette image m'a fait partir. J'avais un ami qui s'occupait de chimie et je lui demandais comment empoisonner quelqu'un. Il m'a envoyé une lettre que j'ai détruite parce que j'ai dit, un jour ou l'autre, un ami, ma femme, quelqu'un à côté de moi meurt, on trouve cette lettre, j'ai fini en prison et c'est fini.
Avant même de commencer à écrire, Umberto a besoin de construire son monde.
la forme extérieure du château. J'avais pris des formes de châteaux qui existaient, le Castello Ursino, le Catania, Castel del Monte, qui m'a inspiré beaucoup, Cluny. J'avais fait une série d'épreuves, l'une différente de l'autre, pour les labyrinthes de la bibliothèque, qui après n'était pas comme ça. Évidemment, il est devenu, voilà, plutôt comme ça.
Ben voilà, on y revient toujours. C'est le temps des châteaux et le temps des imaginaires. Alors, on peut tout confondre, hein, le nom de la rose et les très riches heures du duc de Berry, parce que c'est un rêve dans un rêve dans un rêve, Étienne Alain.
Oui, et Umberto Eco nous rappelle que, en fait, le mot gothique veut dire des choses très différentes dans la langue française. Le gothique, c'est ce terme qu'on utilise pour désigner ces romans anglais du 19e siècle. Et en ce sens, le nom de la rose, c'est un roman gothique. Mais le gothique, c'est aussi le gothique international, c'est-à-dire cet art qui s'illustre dans les très riches heures. Et je crois que de ce point de vue, ces petits détails qu'on voit ici ou là, et on a commencé en parlant du mois d'octobre, et l'image du mois d'octobre, il y a cet épouvantail, un épouvantail qui tire à l'arc. C'est-à-dire une sorte d'image qui est à la fois peut-être un épouvantail réel, mais aussi une figure fantastique.
Et qui fait pas peur aux oiseaux, parce que les oiseaux, ils picorent devant.
Et qui ne fait pas peur aux oiseaux. On a toutes ce petit tremblement qui se glisse dans le manuscrit. Quelque chose, de fantastique. Quelque chose où se rencontrent les drôleries du Moyen-Âge et un imaginaire qui est celui déjà de la modernité picturale de la Renaissance. Et au fond, je dirais volontiers que les très riches heures, de ce point de vue, montrent le point de rencontre entre le gothique et la quatrième dimension.
Même s'il n'y a pas beaucoup de grotesques, justement, les marges, elles sont très contrôlées. C'est d'ailleurs les artistes eux-mêmes qui les ont faites. Vous l'avez montré, Inès Villela-Petit. Non, le merveilleux, il se trouve ailleurs que dans les singeries.
Les marges sont épurées. Et le merveilleux, pour conclure sur l'imaginaire, en fait, j'aime beaucoup, je crois que c'est ma double page préférée, en tout cas quand j'étais enfant, l'adoration des mages, avec en vis-à-vis une scène en fait, qui représente la rencontre des trois rois mages, et qui... en fait, a pour arrière-plan une vue de Paris avec Notre-Dame. Donc, il y a un mélange des temps et une scène aussi qui est pleine d'exotisme, puisque le cortège des mages venus d'Orient est plein de détails, de types humains, de guépards, de chasse, en fait, qui nous transporte.
Inépuisable ressource imaginaire, Sophie Crasque, le Moyen-Âge, justement pour échapper au classicisme. Il y a d'autres exemples.
Oui, moi ce que je trouvais formidable, c'est que on sait que Umberto Eco a découvert le manuscrit en 1956 quand il a été exposé, et ça nous donne une idée de ce que peut faire une exposition, en fait, de la force que ça peut produire sur les contemporains. Donc c'est une bonne raison de plus pour aller voir l'expo.
Recordo bien qu'il sort de son parler.
Hugues de Courson, qui était un spécialiste de la musique médiévale, Étienne Anheim, c'est 13e, 14e. Vous savez pas, c'est 2003, c'était un piège, c'est de l'électro-médiéval, justement.
J'ai bien fait de pas répondre.
Oui, bien sûr. Ben, c'était Allons-y voir, merci à vous trois, Inès Villela-Petit, Étienne Anheim et Sophie Crasse. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission, une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Noé Chabanne et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.